Bonjour, vous écoutez Résonance, l'émission d'information d'Univers 99.9. Pour cette édition, nous allons à Aider, à la Maison du Canal, rencontrer Véronique Guillet-Bourriaud. Elle va nous présenter le canal d'Ilérance dans sa dimension écologique. Quelles espèces animales et végétales abrite-t-il? En quoi est-il important en tant qu'habitat naturel? C'est tout de suite dans Résonance. Vous écoutez Univers 99.9. Je suis ici, à la Maison du Canal, à aider pour une présentation avec Véronique Guillet-Bourriaud de ce canal, et notamment dans la dimension écologique, environnementale et du rôle du canal dans les équilibres écologiques et aussi les espèces animales et végétales qu'il peut abriter, accueillir. Alors bonjour tout d'abord, Véronique. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce canal dans sa dimension environnementale et notamment justement dans le territoire, comment il s'inscrit? Alors c'est un endroit lié à l'eau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer son inscription dans le territoire?
Alors c'est vraiment très particulier parce que quand même à l'origine, le canal c'est quelque chose de très artificiel. Mmh. Mais c'est un espace où la nature a toute sa place au jour d'aujourd'hui. Il y a un gros travail de fait par les équipes de gestion de ce canal sur les attentions, en tout cas le bon équilibre entre les besoins techniques, donc de la navigation, du fluvial, et les données plus naturalistes, on va dire. Il est vrai que ce canal est constitué d'un patrimoine boisé, par exemple. Au bord du canal, il y a des zones qui sont très intéressantes, avec des espèces variées, qu'on retrouve quand même fréquemment. Le canal d'Ilérance présente notamment de nombreux chênes, de nombreux châtaigniers, des hêtres également.
Qui avaient été plantés spécialement durant l'histoire de...
Oui, alors en fait, quand on a creusé le canal, on a pensé également à la plantation d'arbres. Les arbres sur le canal sont importants, ils ont plusieurs rôles. À la fois, ils permettent, grâce à leur système racinaire, de maintenir les talus qui ont été créés même quand on creusait, parce que quand on creusait, il fallait utiliser ce remblai, du coup, et donc on l'a déplacé sur les côtés, créé des talus, et pour maintenir ces talus et éviter qu'ils ne s'éboulent, on a planté des arbres. Donc le système racinaire a permis le maintien de ces talus. En même temps, quand on est sur un canal, qu'on navigue, on prend des coups de vent parce qu'on traverse des zones qui sont un peu plus découvertes. Donc, les alignements d'arbres permettent de créer un rideau de verdure qui va briser le vent, voilà, et protéger les navigants. Et puis aussi, sur la partie artificielle notamment, où on se donne beaucoup de mal pour amener de l'eau dans ce canal pour pouvoir y naviguer, on a eu le souci d'éviter l'évaporation trop rapide de cette eau qu'on amène. Et en ayant planté des arbres comme ça au bord du canal, on crée des zones d'ombre, des zones de fraîcheur, qui fait que le moindre petit degré de gagné sur cette voie d'eau, c'est de l'eau de préserver et donc qu'on ne perd pas bêtement, quoi. Donc voilà. Donc il y a effectivement un très très grand intérêt porté aux arbres. Dans les zones un peu plus boisées, comme on peut avoir là sur le site des 11 écluses en face de la Maison du Canal, il y a aussi un mode de gestion des arbres qui est assez intéressant parce que ces arbres, de temps en temps, on les coupe pour pouvoir les vendre, Dès qu'ils ont de beaux fûts, on ne les laisse pas pourrir sur place, pour éviter les dangers d'arbres qui tomberaient tout seuls. Donc on est extrêmement vigilant à couper les arbres malades ou trop vieux. Et puis aussi les arbres qui ont une valeur marchande, qui peuvent être vendus et transformés en planches ou autres, ou pour de la construction de maisons, etc. Par contre, donc quand on coupe un arbre, on ne replante pas forcément, on va observer les jeunes pousses qui peuvent être intéressantes. Et dans ce cas-là, on va faire un travail d'élagage des arbres autour, de façon à amener de la lumière sur ces jeunes pousses, pour leur permettre de devenir un bel arbre, voilà, qui prendra le relais de ceux qui ont été coupés. Donc voilà, donc c'est un mode de gestion que je trouve assez intelligent et qui permet de faire perdurer aussi tout cet environnement arboré que l'on a sur le canal.
Alors, justement, lié à l'eau et les arbres, il y a évidemment aussi toute une faune, une diversité d'animaux qui y logent. Est-ce que vous pourriez nous présenter, dans la mesure du possible, les différentes espèces qu'on peut trouver le long du canal ou dans le canal?
Alors, on peut trouver donc dans le canal et bien des poissons. On a pas mal de pêcheurs le long du canal. Il y a d'ailleurs à aider la maison pêche et nature de la Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine qui s'est installée et qui fait des animations pêche. Donc, le collègue Julien serait plus à même de parler poissons que moi. Mais on peut y trouver des brochets, des cendres, etc. C'est quand même... Et on a des pêcheurs qui reviennent, donc je pense qu'il doit y avoir vraiment intérêt. On a également d'autres types d'invertébrés. On a des amphibiens, on a des tritons... On a également des larves de libellules, énormément, notamment au niveau des étangs, plus que dans le canal. Et puis oui, voilà, il y a aussi toute cette faune autour de l'eau, donc les libellules, énormément. On a aussi les oiseaux, hein, sur les étangs, qui sont des reposoirs où la chasse, pardon, est interdite. Et donc, ça permet aux espèces migrantes de se reposer sur ces étangs. On peut y observer, en fonction des saisons, des grès huppés, des castagneux, des foulques macroules, voilà, des colverts, des cannes, il y a des oies selon la période, etc. Ce sont vraiment des endroits, les étangs d'alimentation du canal, qui sont prisés du coup pour ça aussi, pour l'observation. Et puis, on a aussi, on est obligé de faire avec, mais les ragondins. Voilà,
qui peuvent embêter pour le canal dans la mesure où ils creusent des terriers, c'est ça?
C'est ça. Oui, effectivement. Alors, ce sont des animaux qui ont été importés. Enfin, bon, il y a une longue histoire là-dessus. Mais bon, il se trouve que ce sont des animaux qui, du coup, se trouvent dans un milieu qui ne leur est pas naturel à la base. C'est pas leur lieu d'origine. Et donc, ils n'ont pas de prédateurs. Et ces petites bêtes sont pas méchantes dans le fond, mais elles s'abritent effectivement dans des garennes, hein, des terriers qu'ils creusent, au bord de plans d'eau, en milieu humide. Donc le canal, effectivement, a quelques dégâts par endroit de berges fragilisées par ces garennes. Alors, depuis le début des années 2000, le gestionnaire de l'époque, qui n'était pas déjà la région, avait commencé à mettre en place une politique de réfection des berges, utilisant une technique qui s'appelle le génie végétal, génie écologique, et qui utilise en fait la végétation pour maintenir les berges. Donc quand on refait les berges, on enlève les petits murets de pierre, on met des gros enrangements, on ramène de la terre, on enferme le tout sous un grillage et une toile de coco, et on y plante des espèces type iris des marais ou autres qui, par leur système racinaire vont maintenir les berges. Le grillage évite que les ragondins reviennent creuser dans ces berges. Et c'est vrai que depuis 2002, on a, je pense, suffisamment de recul pour s'apercevoir que ça fonctionne relativement bien.
Quels sont les mammifères qu'on peut trouver le long du canal ?
Oui, alors il y a l'association Bretagne Vivante qui a effectué des comptages récemment, des comptages de chiroptères sur le site de Hédé et deux des étangs d'alimentation que sont celui de Hédé et celui de Bazouches-sous-Hédé. Ces comptages ont révélé la présence de 17 espèces de chauves-souris. Sur ce site, alors que sur l'ensemble du territoire breton, ils en ont comptabilisé 22. Donc c'est une belle proportion. Donc on peut dire que ce canal est vraiment propice au gîte des chauves-souris. C'est un très bon garde-manger pour les chauves-souris qui sont insectivores et qui, du coup, dès la nuit tombée, peut se régaler grâce aux insectes qui volettent au niveau de la surface de l'eau ou bien auprès des herbes, sous la voie verte, sous les branches des arbres. Donc c'est vrai qu'on a à la fois la présence de l'eau qui attire les insectes et qui du coup peut attirer les chauves-souris. On a aussi la présence de différentes cavités qui peuvent servir de gîte aux chauves-souris. Vous avez les vieux arbres, effectivement, qui vont avoir des petites cavités dans leur écorce, etc., qui vont permettre à des chauves-souris de nicher dans la journée et de ressortir le soir. Vous avez les vieux bâtiments, les maisons éclusières qui sont en pierre et donc éventuellement dans les joints un petit peu abîmés, là aussi elles peuvent venir nicher. Elles peuvent aussi se cacher derrière les volets des maisons éclusières. Les granges un petit peu aux alentours. Et puis on a la vallée de Hédé aussi qui est très propice aux gîtes, avec des bâtiments abandonnés, énormément d'arbres, de vieux arbres, etc.
Donc, si je comprends bien, le canal est un lieu d'habitation et de, comment dire, d'accueil de très très nombreuses espèces animales, quoi.
Oui, ouais, vraiment, faune-flore, c'est vraiment un lieu qui... c'est un véritable corridor écologique à tout point de vue.
Véronique Guillet-Bourriot, merci. Voilà, c'était Résonance sur les ondes d'Univers 99.9. Si vous voulez aller sur le site internet de la radio, c'est le www.radio-univers.com. Salut.